Bien. Merci. Merci pour elle. Alors, je lui ai dit que vous alliez être très sage parce qu'elle est très intimidée. Elle vient de me dire, mais il y a beaucoup de monde. Hein. Et je lui ai dit, moins que la dernière fois. Ce qui est vrai. Bon, Pauline Coster a donc fait sa thèse avec Jean-Jacques Gégère, que vous avez vu la dernière fois. Elle a fait sa thèse sur, mais elle va vous en parler, sur des terrains qui sont en Libye. En Libye. Elle a soutenu sa thèse en novembre dernier. Depuis, je l'ai emmenée se promener en Antarctique. Donc, je ne sais pas si elle vous parlera de l'Antarctique, mais elle pourrait. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a un autre, là, que j'ai emmené aussi en Antarctique. Et aujourd'hui, elle va vous parler d'un problème qui est particulièrement intéressant parce qu'on n'a pas de vraie réponse. Vous imaginez, on a quand même plein de singes anthropoïdes en Amérique du Sud. Je sais bien, ils ne sont pas de la famille, enfin de la famille proche. Mais à la question d'où viennent-ils, d'où sont-ils originaires, eh ben, on n'a pas de réponse. Et ça, c'est une des dernières grandes questions qui reste sans réponse. Pauline va vous parler, entre autres, de cela. C'est toi qui fais la conférence, c'est pas moi, donc c'est à toi de parler maintenant.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit le professeur Brunet, je vais vous parler aujourd'hui des problèmes paléobiogéographiques liés à l'histoire des primates anthropoïdes et des rongeurs estrigognates, et notamment des primates anthropoïdes d'Amérique du Sud, qu'on appelle les platyriniens, et les rongeurs estrigognates d'Amérique du Sud, les caviomorphes. Donc, les singes platyriniens appartiennent au groupe des anthropoïdes. Les anthropoïdes sont classiquement divisés en deux groupes, les platyriniens ou les singes du Nouveau Monde et les catarhiniens, les singes de l'Ancien Monde. Les données paléontologiques et moléculaires indiquent que les platyriniens forment un groupe monophylétique, groupe frère des catarhiniens, les singes de l'Ancien Monde. À l'heure actuelle, les platyriniens forme un groupe de primates extrêmement diversifié, puisqu'on dénombre une vingtaine de genres et à peu près 200 espèces. Donc, comme a dû vous l'exposer Jean-Jacques Gégère la semaine dernière, l'Afrique a longtemps été considérée comme le berceau des anthropoïdes, mais les découvertes faites au cours des 15 dernières années en Asie ont permis de reconsidérer l'origine biogéographique de ce groupe. En effet, les fossiles d'Inde, de Chine, de Thaïlande et de Birmanie, de l'Éocène moyen, ont montré que ce groupe avait subi une diversification importante à l'Éocène en Asie et ont montré une origine ancienne asiatique des anthropoïdes. Le plus Branisella boliviana est le plus vieux fossile d'anthropoïdes connu en Amérique du Sud. Il a été décrit dans la formation de Salla, daté de l'Oligocène supérieur à 26 millions d'années. Ce fossile présente trois molaires, trois prémolaires comme tous les platyriniens, et des molaires supérieurs à quatre cuspides. Sa position phylogénétique par rapport aux autres lignées d'anthropoïdes d'Amérique du Sud, les platyriniens actuels, n'est pas bien établie, mais sa dentition est très similaire à celle de Proteopithecus, un anthropoïde fossile décrit dans les dépôts de l'Éocène supérieur de la formation du Fayoum en Égypte. Proteopithecus appartient au groupe des Proteopithecidae, qui sont reconnus comme des anthropoïdes basaux, assez primitifs pour être à l'origine des catarhiniens, du groupe des platyriniens ou bien de ces deux groupes. Donc, les platyriniens et les catarrhiniens se distinguent par une demi-douzaine de caractères anatomiques importants. Donc, les platyriniens présentent 36 dents, alors que les catarrhiniens n'en ont que 32. Les platyriniens ont en effet 3 prémolaires par chaque demi-mâchoire, alors que les catarrhiniens en ont seulement 2. De plus, les platyriniens ont des narines orientées latéralement et assez écartées, alors que les catarhiniens ont des narines plus rapprochées et orientées vers le bas. Au niveau de l'oreille, l'os ectotympanique des platyriniens est en anneau, alors que les catarhiniens présentent un os ectotympanique en tube ossifié. Au niveau du crâne, on note également des différences puisque les platyriniens présentent un contact entre l'os pariétal et l'os zygomatique, alors que chez les catarhiniens, ce contact n'existe pas puisque l'os pariétal est en contact avec l'os temporal et l'os frontal. Il y a également un caractère au niveau de la queue, puisque les platyriniens ont souvent une queue longue, souvent préhensile, alors que les catarhiniens ont une queue courte, jamais préhensile, voire pas de queue du tout. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, les premiers fossiles d'anthropoïdes en Amérique du Sud ont été découverts à l'Oligocène supérieur. Et il semble que ce groupe ait colonisé l'Amérique du Sud à un moment à l'Oligocène inférieur ou à l'Éocène supérieur. Les primates anthropoïdes ont colonisé l'Amérique du Sud en même temps qu'un autre groupe de mammifères placentaires, les rongeurs hystricognathes. Il semble que seuls les rongeurs hystricognathes et les primates anthropoïdes aient colonisé l'Amérique du Sud à ce moment-là. Et l'absence de fossiles de primates et de rongeurs dans les faunes d'Amérique du Sud plus vieilles ne semble pas être liée à un biais d'échantillonnage, étant donné qu'on connaît assez bien les faunes du début de l'ère tertiaire d'Amérique du Sud, qui présentent d'ailleurs un fort degré d'endémisme. Donc, les rongeurs caviomorphes sont un groupe de rongeurs qui appartiennent à l'infraordre des hystricognathes. Les hystricognathes comprennent les porcs-épics de l'Ancien Monde ou les hystricidés, les rongeurs d'Amérique du Sud, hystricognathes d'Amérique du Sud, les caviomorphes, et les rongeurs hystricognathes d'Afrique, les phéomorphes. Après leur arrivée en Amérique du Sud, les caviomorphes ont subi une diversification importante, puisqu'on connaît à l'heure actuelle des formes variées et très diversifiées qui vont de formes arboricoles, comme les porcs-épics du Nouveau Monde, à des formes semi-aquatiques, comme les ragondins. Les phéomorphes, quant à eux, comprennent par exemple le rat des roseaux, le Trionomys, le rat taupe et le rat des rochers, le Petromus. Donc, les données paléontologiques indiquent que les rongeurs hystricognathes ont une origine ancienne asiatique et que ces derniers ont subi une radiation évolutive très importante à l'Éocène en Afrique. La présence de rongeurs hystricognathes en Afrique et en Amérique du Sud à la fin de l'Éocène, au début de l'Oligocène, pose des problèmes de paléobiogéographie, car ces deux continents étaient isolés. Les affinités phylogénétiques des caviomorphes ne sont pas encore bien établies, et certains auteurs supposent que les caviomorphes et les phéomorphes partagent une origine africaine, alors que d'autres auteurs suppose que les caviomorphes auraient émergé en Asie. Donc, les plus vieux rongeurs caviomorphes ont été décrits dans la localité de Tungiririca, au Chili, une localité datée à 31 millions d'années. Et la localité de Santa Rosa, au Pérou, a également livré une faune très diversifiée de rongeurs caviomorphes primitifs, comme vous avez illustré ici avec le genre Eosalamis et Eobranisamis, qui sont des caviomorphes avec des dents brachiodontes, avec des crêtes assez bien marquées. Donc les temps de divergence entre les caviomorphes et leurs groupes frères ont été estimés grâce à des datations moléculaires, et il apparaît que les caviomorphes et les singes platyriniens auraient divergé de leurs groupes frères à la même époque paléontologique, c'est-à-dire à la fin de l'Éocène. À cette période, l'Amérique du Sud était un continent complètement isolé, puisque depuis sa séparation au Crétacé il y a 100 millions d'années avec l'Afrique, jusqu'à sa reconnexion il y a 3 millions d'années avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud était entourée d'océans et isolée. L'isolement paléogéographique de l'Amérique du Sud et l'apparition brutale dans le registre fossile des rongeurs rostricognathes et des primates anthropoïdes amènent plusieurs questions. La première est à savoir quand et où ont-ils divergé, primates anthropoïdes et rongeurs rostricognathes d'Amérique du Sud, ont-ils divergé de leurs groupes frères ? Sont-ils arrivés de façon synchrone en Amérique du Sud ? Et par quelle route ont-ils atteint ce continent ? Donc pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il semblait nécessaire de s'intéresser à l'histoire évolutive des premiers représentants de ces groupes en Afrique. Le registre fossile du Paléogène en Afrique est cependant très pauvre, puisqu'on dénombre seulement une vingtaine de localités à mammifères terrestres datées du Paléogène. Les localités éocènes d'Afrique sont principalement localisées en Afrique du Nord. Seules trois localités africaines documentent l'Éocène supérieur. Les localités de Bir El Ater dans les montagnes du Nemencha en Algérie, la localité du Dor El Tala dans le Sahara libyen et la localité du Fayoum, la dépression du Fayoum en Égypte. Donc ces trois localités ont livré un assemblage phonique assez similaire et documentent les premières traces de rongeurs rostricognathes et de primates anthropoïdes en Afrique. La localité du Dor El Tala est située dans le bassin de Sirte, au centre de la Libye. La formation du Dor El Tala affleure le long d'un escarpement de plus de 150 km en plein milieu du Sahara libyen. Donc les récentes prospections paléontologiques au Dor El Tala ont permis la découverte de nouvelles localités fossilifères qui ont livré des assemblages de micromammifères assez diversifiés. Donc les assemblages de micromammifères comprennent notamment des anthropoïdes et des rongeurs rostricognathes. La faune d'anthropoïdes collectée au Dor El Tala constitue à l'heure actuelle le plus vieil assemblage de fossiles d'anthropoïdes connu en Afrique. Les nouvelles localités fossilifères du Dor El Tala ont également livré un assemblage de rongeurs rostricognathes assez riche, puisque 5 taxons ont été reconnus, comprenant notamment les taxons les plus primitifs connus de phéomorphes en Afrique, de rongeurs rostricognathes africains en Afrique. La dépression du Fayoum a quant à elle livré la plus riche faune de mammifères paléogènes africains. Et les fossiles d'anthropoïdes collectés dans la formation du Djebel Katrani, qui appartient au dépôt du Fayoum, constituent à l'heure actuelle le plus riche registre fossile d'anthropoïdes africains. La formation du Bir Kat Karoum, qui a été datée de la fin de l'Éocène, a livré 2 espèces d'anthropoïdes basaux appartenant au genre Birecia, et une faune associée de rongeurs rostricognathes, dont des rongeurs rostricognathes très primitifs. La formation du Bir Kat Karoum est datée de l'Éocène supérieur à 37 millions d'années. Donc, en Afrique, les autres localités éocènes documentent une période beaucoup plus ancienne, puisqu'elles sont toutes datées de l'Éocène inférieur ou du début de l'Éocène moyen. La formation du Glibzegdou a été datée au début de l'Éocène moyen et cette formation affleure dans la partie occidentale du Sahara algérien. Cette formation a livré une des faunes les plus riches documentant la période du début de l'Éocène puisque plus de 500 races de mammifères ont été identifiées. Parmi eux, des primates et des rongeurs, mais qui appartiennent, pour les rongeurs, non pas des rongeurs histricognathes, mais à la famille des Ecdoumidés, qui est une famille primitive de rongeurs africains. Et en ce qui concerne les primates, deux espèces ont été identifiées, dont Algeripithecus minutus, qui a été pendant longtemps reconnu comme le plus vieux fossile d'anthropoïde connu en Afrique. Les récentes découvertes de restes crâniens et dentaires ont permis de montrer qu'Algeripithecus n'était pas un anthropoïde, mais qu'il appartenait au groupe des lémuriformes. Donc, sur ce graphique, ont été replacées dans un cadre chronostratigraphique toutes les localités éocènes africaines. On s'aperçoit qu'elles peuvent se classer en deux grandes catégories. Les localités documentant le début de la période éocène et celles documentant la fin de l'éocène avec les localités du Dor El Tala, les localités de la dépression du Fayoum et celles de Bir El Ater. Donc les localités documentant le début de l'éocène ont livré des faunes de mammifères endémiques comprenant des groupes tels que les iracoïdes, les macrocélidés ou les proboscidiens, et des faunes de rongeurs qui comprennent, comme je vous l'ai dit, les ecdoumidés, qui sont les plus vieux représentants des rongeurs en Afrique, et les primates sont seulement connus par des familles de strepsyriniens et pas d'anthropoïdes. Donc le registre fossile africain montre une importante lacune pendant toute la période de l'Éocène moyen. Seules quelques localités, au Mali, en Tanzanie, au Sénégal et au Maroc, documentent cette période, mais ces localités ont livré des restes de mammifères très mal préservés et très peu nombreux. Donc cet intervalle de temps est pourtant d'une importance capitale puisqu'il documente l'arrivée des taxons migrants asiatiques, les rongeurs histricognathes et les primates anthropoïdes. Un autre groupe de mammifères, les anthracotères, arrive également en Afrique à cette période. Les anthracotères sont un groupe de mammifères proches des hippopotames et ils ont une origine également asiatique. Donc l'Éocène moyen doit documenter l'arrivée de ces taxons migrants et indique l'existence d'une phase de dispersion entre l'Asie et l'Afrique à l'Éocène moyen. Cependant, à l'Éocène, l'Afrique était un continent isolé et les données géologiques indiquent l'absence de ponts continentaux entre l'Afrique et l'Asie. Certains auteurs ont supposé que les taxons asiatiques auraient pu rejoindre l'Afrique en passant par le bloc iranien et la plaque arabique. Un passage par l'Europe semble peu probable, étant donné que le registre fossile de l'Éocène moyen est assez bien connu en Europe et qu'il ne documente pas la présence de rongeurs histricognathes ou de primates anthropoïdes. À l'Éocène moyen, l'Europe était un archipel isolé de l'Afrique par la Tétis et de l'Asie par la présence d'importantes mers épicontinentales. L'Éocène moyen est cependant marqué en Europe par d'importants changements fauniques, puisque c'est à cette période qu'apparaissent les premiers primates adapinés, qui vont remplacer les primates adapiformes qui étaient florissants pendant tout le début de l'Éocène. Les adapinés ont une origine asiatique, et dès leur arrivée, les adapiformes vont complètement disparaître du registre fossile européen. Et au niveau des faunes de rongeurs, on voit également arriver à l'Éocène moyen les pteridomidés. Le registre fossile du début de l'Éocène en Europe est caractérisé par la présence des ischyromyidés, une famille primitive de rongeurs présente en Amérique du Nord et en Europe dès le Paléocène supérieur. Et dès l'arrivée des premiers pteridomidés, les ischyromyidés vont complètement disparaître. Donc les changements phoniques importants enregistrés en Europe sont datés de l'Éocène moyen et entre 42 et 44 millions d'années. À cette époque, en Amérique du Nord, on note également d'importants changements phoniques puisqu'on voit l'arrivée d'un certain groupe de lagomorphes, les léporidés, ayant une origine asiatique, d'un groupe de rhinocérotides ayant une origine asiatique également, et d'importants changements phoniques dans les communautés de primates. Donc, les primates de l'Éocène moyen d'Amérique du Nord montrent de très grandes similitudes avec certains taxons asiatiques et semblent phylogénétiquement proches de certains clades asiatiques, indiquant l'existence d'une phase de dispersion entre l'Asie et l'Amérique du Nord à l'Éocène moyen. Donc, certains auteurs ont supposé que la distribution transpacifique des lagomorphes, des rhinocérotides et de ces groupes de primates pourrait être mise en relation avec le développement de conditions paléo-environnementales favorables qui auraient permis un passage d'Asie vers l'Amérique du Nord via le détroit de Bering. Quand on regarde au niveau climatique ce qui se passe, l'Éocène moyen est marqué par un réchauffement important qu'on appelle le MECO, ou le Middle Eocene Climatic Optimum. Cet événement de réchauffement climatique a été daté entre 43 et 44 millions d'années et pourrait être responsable de la mise en place d'un couvert de végétation au niveau du détroit de Bering qui aurait permis la communication entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Cet événement de réchauffement climatique pourrait également être responsable d'une remontée vers le nord de zones de végétation qui aurait permis la mise en place de couloirs de dispersion entre l'Asie et l'Europe, qui montrent des changements phoniques contemporains à ceux d'Amérique du Nord. Donc, le réchauffement climatique du MECO pourrait être également interprété comme un des facteurs qui pourrait potentiellement être responsable de la mise en place des échanges entre l'Asie et l'Afrique. Cependant, le cadre temporel des échanges Asie-Afrique est encore très mal établi et il est difficile de savoir si ces échanges ont été contrôlés par des facteurs climatiques ou bien par des facteurs eustatisme, c'est-à-dire des baisses ou montées du niveau des mers, ou bien par des facteurs tectoniques ou encore par une combinaison de tous ces facteurs. Le registre fossile de l'Éocène moyen en Afrique et en Asie ne permet pas encore de favoriser un de ces scénarios et de nouveaux fossiles sont nécessaires afin de contraindre le cadre temporel et les modalités de dispersion des taxons migrants en Asie. Donc, l'Éocène moyen apparaît comme une période clé déterminante de la répartition des rongeurs et stricognathes et des primates anthropoïdes dans le monde, puisque c'est à cette période qu'on suppose que les primates anthropoïdes et les rongeurs et stricognathes sont arrivés en Amérique du Sud. Cependant, les modalités de cette colonisation sont encore très mal connues et, comme je vous l'ai dit plus tôt, plusieurs questions se posent, à savoir les caviomorphes et les platyriniens ont-ils une origine africaine ou asiatique? Quelles ont été les routes de colonisation de l'Amérique du Sud? Et quand les platyriniens et les caviomorphes ont-ils atteint l'Amérique du Sud? Donc la question de leur origine biogéographique est encore controversée, mais il semble que les caviomorphes partagent d'importantes similitudes morphologiques avec les phéomorphes, les rongeurs et stricognathes africains. Cependant, le registre fossile, jusqu'à présent, n'a pas permis d'identifier l'ancêtre des caviomorphes en Afrique, ni en Asie d'ailleurs. Cependant, les récentes découvertes faites dans les localités fossilifères de Zella, c'est une oasis située dans le bassin de Sirte, en Libye centrale. Donc, les récentes missions paléontologiques ont permis de découvrir un assemblage de phéomorphes dans ces localités fossilifères. Donc, cet assemblage comprend cinq taxons, dont Godeamus, qui est un taxon assez énigmatique. Et les localités fossilifères de Zella sont datées de l'Oligocène inférieur. Godeamus est un des rongeurs estrigognathes africains les plus hypsodontes et présente une morphologie occlusale avec des lophes bien marqués. Il présente une morphologie très similaire de certains des caviomorphes les plus primitifs d'Amérique du Sud, dont notamment Eoincamis, un fossile de caviomorphe découvert dans la localité de Santa Rosa au Pérou, qui a été daté de l'Oligocène inférieur également. Donc, Odamus et Eoincamis présentent d'importantes similitudes morphologiques. Ils sont tous les deux tétralophodontes, c'est-à-dire qu'ils ont quatre lophes. Et cette condition tétralophodonte n'est connue dans le monde que chez ces deux taxons-là. Au niveau des prémolaires, le Godéamus présente également d'importantes similitudes morphologiques avec les caviomorphes, puisque Godéamus et les caviomorphes sud-américains présentent des prémolaires pentalophodontes. Et les seules différences entre les prémolaires de Godéamus et celles des caviomorphes résident dans de légers différents degrés d'inclinaison des crêtes. Donc, afin de tester la position phylogénétique de Godéamus au sein des rongeurs estrigognathes et par rapport aux caviomorphes, une analyse phylogénétique a été réalisée. Donc, cette analyse phylogénétique a inclus des taxons asiatiques primitifs, les balouchimines, des taxons de rongeurs estrigognathes africains et les taxons les plus primitifs de rongeurs estrigognathes d'Amérique du Sud de caviomorphes. Cette analyse est basée sur des caractères dentaires et des caractères de la microstructure de l'émail de l'incisif. Donc, il apparaît que Godéamus partage des caractères dérivés avec les caviomorphes et il semble plus proche des caviomorphes que des phéomorphes africains. Donc, le haut degré de similitude entre Godéamus et les caviomorphes peut être interprété comme un cas d'évolution convergente, c'est-à-dire d'évolution parallèle, ou bien peut signifier que le début de la radiation des caviomorphes soit contemporaine de celle des phéomorphes africains et donc indiquerait l'existence d'une route de migration directe entre l'Afrique et l'Amérique du Sud à l'Éocène. Donc, quand on regarde au niveau de la paléobiogéographie, comme je vous l'ai dit, l'Amérique du Sud était un continent isolé à l'Éocène. Et quand on considère une origine africaine des caviomorphes et des anthropoïdes, une première hypothèse de scénario paléobiogéographique suppose que les rongeurs et les primates auraient traverser l'Atlantique. Donc, il faut savoir qu'à l'Éocène, l'Atlantique était moins large qu'actuellement, puisqu'il mesurait, sa largeur a été estimée à environ 1500 km. Donc, deux modes de dispersion sont classiquement présentés pour expliquer les dispersions à travers de larges barrières océaniques. Le premier mode de dispersion est un mode de dispersion qu'on appelle « island hopping » en anglais et qui est un mode de dispersion par migration, par itération d'île en île, c'est-à-dire par petits sauts d'île en île. Cependant, à l'Éocène, les îles étaient très rares, voire non existantes dans l'océan Atlantique et il semble peu probable que ces deux groupes de mammifères soient passés d'Afrique en Amérique du Sud par island hopping. Le second mode de dispersion pour expliquer les dispersions transocéaniques est le rafting ou le mode de dispersion par radeau. Donc les radeaux par radeau naturel. Les radeaux naturels se forment par des amas de végétation ou par le décrochement d'un morceau de rive d'une rivière, et ils sont ensuite transportés d'un continent à l'autre par les paléocourants ou les paléovents. Donc ici, Vous avez des photos de radeaux naturels photographiés à l'heure actuelle. Donc, rongeurs et primates auraient pu traverser l'océan Atlantique sur un de ces radeaux naturels. Cependant, ce scénario est quand même peu robuste parce que il semble les probabilités qu'un tel radeau naturel se forme et sont faibles et que des rongeurs et des primates se retrouvent sur ces radeaux et survivent à une telle traversée, les probabilités sont également très faibles. Donc maintenant, si on considère encore une origine africaine pour les anthropoïdes d'Amérique du Sud, on pourrait supposer un passage par l'Antarctique. Un passage par l'Antarctique suppose également la traversée d'une importante barrière océanique qui aurait permis ensuite d'atteindre l'Antarctique. Donc il faut savoir que l'Antarctique et l'Amérique du Sud étaient connectés jusqu'au début de l'Oligocène, avant l'ouverture du détroit de Drake. Donc ce scénario semble également plausible, mais aucun fossile de rongeur hystricognate ou primate anthropoïde n'a jamais pour l'instant été retrouvé en Antarctique. Donc il faut savoir que le registre fossile de mammifères en Antarctique est très pauvre, considérant le fait que ce continent est recouvert de glace pour la plupart et que très peu de missions paléontologiques ont été effectuées en Antarctique. Donc, comme vous l'a dit le professeur Brunet, j'ai eu l'occasion de participer à une mission en Antarctique au mois de janvier dernier, où nous avons été prospecter des sites sur la péninsule antarctique et sur l'île du Roi George, une île située dans les îles du Shetland du Sud. Donc nous avons étudié les niveaux éocènes, dont certains niveaux qui avaient livré des restes de plantes fossiles. Nous n'avons malheureusement pour l'instant pas retrouvé de traces de mammifères terrestres, mais l'Antarctique est un continent qui promet de livrer de nouvelles découvertes par la suite, et il est important de persévérer dans les fouilles paléontologiques sur ce continent. Donc maintenant, si on en revient aux hypothèses de scénarios paléobiogéographiques pour expliquer l'arrivée des primates et des rongeurs en Amérique du Sud, on peut considérer cette fois que ces groupes pourraient avoir une origine asiatique. Comme je vous l'ai déjà dit, les rongeurs hystricognates et les primates anthropoïdes ont une origine ancienne asiatique, et certains auteurs ont supposé que ces groupes auraient pu émerger directement d'Asie, sans passage par l'Afrique. Donc en considérant une origine asiatique pour ces groupes, on pourrait imaginer un passage par l'Amérique du Nord pour rejoindre l'Amérique du Sud. Donc ces groupes auraient pu rejoindre l'Amérique du Nord via le détroit de Bering, mais l'absence de primates anthropoïdes et de rongeurs hystricognates dans le registre fossile d'Amérique du Nord, qui est bien connu, semble mettre en doute cette hypothèse. Donc enfin, un dernier scénario paléobiogéographique pourrait supposer un passage par le sud via l'Australie et l'Antarctique. Ce scénario suppose cependant la traversée d'une importante barrière océanique entre l'Asie et l'Australie et un passage par l'Australie où aucun fossile de primates ni de rongeurs hystricognates n'a pour l'instant été découvert, et un passage par l'Antarctique également. Donc à l'heure actuelle, l'Afrique semble phylogénétiquement la source la plus probable pour les primates anthropoïdes d'Amérique du Sud et les rongeurs caviomorphes. En effet, les faunes de rongeurs hystricognates d'Afrique présentent d'importantes similitudes avec les caviomorphes d'Amérique du Sud, et les faunes de primates anthropoïdes d'Éocène supérieur d'Afrique, comme par exemple les groupes des parapithécidés ou des protéopithécidés, présentent également d'importantes similitudes avec les platyriniens et semblent très proches de ces groupes. Donc l'origine africaine de ces groupes semble plus robuste qu'une origine asiatique. Donc conclure que l'origine de ces groupes est africaine ne permet pas d'expliquer comment ils ont pu atteindre l'Amérique du Sud et comment ils auraient pu survivre à un voyage transatlantique. Donc certains auteurs se sont questionnés quant à la faisabilité d'un voyage en radeau entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, pardon, et surtout pour des groupes tels que les primates et les rongeurs, qui ont une écologie assez particulière et une alimentation spécialisée. Donc les temps de voyage estimés entre l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été estimés entre 10 et 45 jours, ce qui aurait pu permettre la survie de ces groupes sur un radeau. De toute façon, l'arrivée de ces groupes en Amérique du Sud, qui étaient complètement isolés à l'époque, le rafting ou la traversée par radeau naturel semble le seul moyen qui permet d'expliquer l'arrivée de ces groupes en Amérique du Sud pour le moment. Donc seule la révision des cartes paléocontinentales pourrait supprimer le besoin d'un radeau, en montrant par exemple l'existence de ponts continentaux et de couloirs de dispersion entre l'Amérique du Sud et les autres continents. Et la découverte de proto-caviomorphes et proto-platyriniens devrait permettre également de confirmer l'origine africaine de ces groupes et d'apporter plus de contraintes au niveau des modalités de leur dispersion et du cadre temporel de ces dispersions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci Pauline. Bon, j'imagine que vous avez plein de questions. N'hésitez surtout pas. Oui, monsieur.
Pardon ?
Qu'est-ce qui t'amène à penser que c'est plus facile de passer ?
Bah rien, en fait, les deux hypothèses sont équiprobables pour l'instant, mais la largeur de l'océan Atlantique, donc la distance entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, elle a été estimée à peu près 1500 km, alors que la distance entre la pointe de l'Afrique et l'Antarctique a été estimée à plus de 2000 km. Et des chercheurs ont montré également que les paléocourants et les paléovents auraient été plus favorables pour une traversée d'Afrique vers l'Amérique du Sud plutôt que d'Afrique vers l'Antarctique.
Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je pense, comme Pauline l'a dit, que les cartes paléogéographiques sont fausses. Imprécise est le mot plus juste, et que leur imprécision est telle qu'il est difficile de se faire une opinion à propos de présence-absence d'îles. Je pense que l'histoire du rafting dont vous a parlé Pauline, je n'y crois pas. Alors, je n'y crois pas pour une raison qu'elle ne vous a pas donnée. On connaît des îles comme ça. On en connaît notamment dans le delta de l'Amazone, qui se balade. Mais on n'a jamais vu de mémoire de Sapiens de tels îlots se déplacer sur de telles distances. Jamais, jamais. C'est toujours beaucoup plus court. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Tu as le droit après de dire le contraire. Je pense que, de toute manière, un tel phénomène de rafting, le point limite serait l'eau douce. Il faut faire boire ces animaux. Donc, il faudrait que, à mon avis, sur le radeau, il faudrait mettre une baignoire remplie d'eau douce. Hein. Ça ne va pas très bien. Par ailleurs, il me semble que si on prend un radeau comme ça, il va être de petite taille. Et on va emmener, j'imagine qu'il doit y avoir des généticiens dans la salle, on va emmener un pool génétique qui va être très faible, très petit, très petit. On va emmener quelques individus. Donc, si le coup du radeau, ça marchait, il y a après la survie des quelques individus. De l'autre côté, passage Afrique via l'Antarctique. Si là-dessus, tous les modèles paléogéographiques sont d'accord, il y a plein de petites îles. Ouais. Plein. Plein. Leur emplacement est forcément très imprécis. Mais quand on regarde les cartes, il est assez facile de sauter d'une île à l'autre. Je persiste à croire que dans toutes les hypothèses qui ont été présentées, l'hypothèse la moins improbable, je vais être prudent, reste l'hypothèse Afrique, Antarctique ou Afrique, Shetland, Amérique du Sud. Afrique, Shetland, Amérique du Sud ou Afrique, péninsule Antarctique, Amérique du Sud. Alors, après, pour, on n'a pas, effectivement, en Amérique du Nord, on n'a jamais trouvé d'anthropoïdes, donc le passage direct, ça serait surprenant, puisqu'on n'a pas, trouvé d'anthropoïdes, on a beaucoup travaillé, pas trouvé. Via l'Australie, on n'a pas non plus d'anthropoïdes, Et quand même, je voudrais dire que on était cette année le premier groupe à aller en Antarctique pour y chercher des singes. Et croyez-moi, on n'a pas travaillé très longtemps, hein. D'ailleurs, à vrai dire, on a cherché des niveaux où il pouvait y en avoir plus que des singes eux-mêmes, quoi, hein. Donc, à mon sens, pour le moment, la raison plaiderait plus pour un passage Afrique, Antarctique, Amérique du Sud que pour tous les autres. Ceci étant... Soyez patients, d'ici 2 ou 3 ans, on va vous ramener des dents. Mais enfin, il faut quand même bien voir que les animaux tels que Pauline les a présentés, ils avaient des dents qui faisaient quoi, entre 1 et 2 millimètres.
Ah, c'est minuscule.
Vous voyez bien ce que c'est, il faut quand même bien réaliser qu'on est en train de chercher des dents dans un univers comme vous avez juste vu quelques photos, c'est grand, et on cherche des dents qui sont entre 1 et 2 millimètres. Vous comprenez pourquoi je suis sûr de moi. Parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'y allez pas, hein, vous ne recommencez pas. Un jour, je ne suis pas sorti avec eux, ils ont emmené le médecin du bateau avec eux, et quand ils sont revenus, ils ont dit, on lui a sauvé les mains, il avait les mains violettes. Bien. Oui.
Monsieur. Quels sont les climats à cette époque qui sont communs entre l'Afrique, l'Antarctique et l'Amérique du Sud? Parce que c'est très joli, mais vos animaux, s'ils partent d'Afrique, ils ont des habitudes de vie. D'un certain type, peut-être qu'ils arrivent en Antarctique, si c'est le climat approximatif pour celui qui est actuellement, c'est pas incroyable.
Non, vous pensez bien, attendez, on ne sait pas grand-chose, mais on en sait suffisamment. Et pour tout le monde, je me suis rendu compte de ça. Il y a plus, je vous en avais pas parlé, mais ça fait 2 ans que j'ai envie d'aller en Antarctique, mais c'est pas facile, quoi, d'aller en Antarctique. Vous allez pas chercher des dents fossiles en Antarctique comme vous allez à la pêche aux moules à l'île d'Oléron, quoi. Hein. C'est un peu plus compliqué, quoi, hein, sur le plan logistique. Donc, l'année dernière, ça avait raté. J'ai été bloqué sur le plan de la logistique. Et puis, bon, cette année, ça a marché. Bon. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que les gens que je voyais me disaient, alors tu es en train de monter une expédition où ? Ma réponse était en Antarctique. Et alors là, je voyais le regard très inquiet des gens devant moi, et leur réaction était, t'as changé de sujet ? Non. Ah bon, mais il n'y a pas d'hominidé en Antarctique. Non, il n'y a pas d'hominidé en Antarctique. Et alors là commence le début de la réponse à votre question. La calotte glaciaire que vous connaissez en Antarctique, à l'heure actuelle, elle s'est mise en place à moins 35 millions d'années. Moins 35 millions d'années. Toutes les périodes de migration dont a parlé Pauline sont plus...
Là, c'est plus vieux.
Plus vieux. On est autour de 40 millions d'années. Et comme par hasard, autour de 40 millions d'années, en Antarctique, on a des flores fossiles. Et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, mais elle en a parlé à travers l'événement climatique, c'est que ces singes, ils vivaient dans des forêts tropicales humides. Eh bien, globalement, vous avez de tels écosystèmes de l'Asie à travers l'Afrique, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Oui. Ces singes, ils ne vivent pas sur la glace. Mais les flores, c'est plus facile à trouver, et là, on a de bonnes indications. C'est-à-dire qu'on ne part pas quand même en Antarctique avec aucun élément. Il y a quand même quelques éléments. Alors après, pour le reste, ça paraît un peu fou, mais... Vous voulez que je vous dise ? Je pense que a priori, la probabilité de trouver des singes anthropoïdes en Antarctique ou dans les Shetland du Sud, cette probabilité est plus forte que le jour où je suis parti pour trouver des hominidés en Afrique centrale. Oui, je pense que l'histoire de l'Antarctique est plus facile. Non.
C'est aussi difficile.
Non.
Si.
Non. Parce qu'il y a plein de petites îles, c'est couvert d'îles. C'est ce qu'on appelle un sweepstake qui saute d'une île sur l'autre, c'est bien connu. Et je pense que les cartes, comme Pauline l'a dit, je pense que les cartes paléogéographiques sont inexactes. Vous avez à l'heure actuelle une carte qui est ce qu'elle est, quoi. Ça donne une idée à grande échelle, mais c'est tout, hein. pas plus. Et quand on le voit bien, à chaque fois, pour ces problèmes de paléogéographie, à chaque fois les mammifères sont des indices absolument épouvantables pour les collègues qui font les cartes paléogéographiques, parce que voilà, quoi, hein. Quand vous en avez un là et un là, c'est qu'entre ces deux points, il y a un moment ou un autre, il y a un pont possible, quoi. Il y a un passage possible, c'est comme ça, quoi. Hein.
Non, moi je pense qu'à l'heure actuelle, raisonnablement, c'est l'hypothèse qui me semble la plus vraisemblable. Les autres sont plus osées. L'histoire du rafting, alors ça je ne crois pas du tout. Alors là vraiment, non. J'y crois pas du tout. Alors, je veux bien faire passer ces rongeurs. Parce que des rongeurs, vous les mettez sous une pierre plate, sur le radeau, ils hibernent, ils sont tranquilles, ils peuvent rester tranquilles pendant un mois, ça va. Des singes, ce sont des animaux actifs. Oui. Mais, à ma connaissance, non, je peux pas. Oh oui, je peux dire ça. Il l'a fait, mais pointe à la ligne. Hein. Et là, ce qu'on leur demande quand même, c'est d'être une population pionnière, de se reproduire et de donner tout le reste. Quoi, hein. Bombard, et il s'est arrêté en cours de route hein, quand même. Hein. Oui.
Et je pense que les singes n'ont plus que passer par l'Antarctique et après ça, passer par cette pointe de feu. Donc ça serait plus simple pour vous. Ma question n'est pas là.
Non, mais attendez, je vais vous répondre à ça quand même. Parce que, imaginez-vous, on ne pense pas à tout, mais ça, on y a pensé quand même. Mais on ne pense pas à tout, hein, oh là là. Ces intellectuels, faut en méfier, hein. Oh, oh. Mais Pauline, Thibault qui est là-bas et votre serviteur, on a traversé ensemble les territoires dont vous parlez là. Non, non, on y a pensé. Hein. Pensez bien. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas. Pardon? Ah ben très bien, très bien, on vient de trouver où monter notre camp gratuitement. Ah ben alors c'est parfait. Eh bien alors, si vous connaissez bien cette région, les affleurements sont très nombreux. Hein, c'est plat, et c'est encore plat. Et ce qui existe en plus grande quantité, c'est le vent. Ça, alors là, par contre, il y en a. Mais le reste, c'est très plat. Et pour faire de la géologie là-dedans, c'est encore plus difficile qu'en Antarctique. C'est encore plus difficile. Mais bien sûr qu'on y a pensé. Bien sûr, bien sûr. Oui.
C'est la question de la chronologie du temps, hein, de
oui.
Cette évolution.
Oui.
Pour la nature, pour fabriquer un foie, vous voyez, fabriquer des poumons, un cœur, des yeux, des oreilles,
oui.
Il lui faut des millions d'années. Mais oui. Pour faire évoluer une dent, hein, pour faire évoluer un fémur ou un volume de crâne, il lui faut que quelques dizaines de milliers d'années.
Ah oui. Ah oui, vous avez lu ça où? Vous avez fait des travaux pratiques là-dessus ?
Jardin des plantes, il y a 7 ans. Donc, pour qu'une souris devienne un éléphant, puisqu'elle a tous les éléments du mammifère et des éléphants aussi, il faut à peu près une soixantaine de millions d'années, vous voyez, pour que l'animal arrive. Alors ça, c'est la première partie de la question, parce que la deuxième...
Non, non, ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et je laisse la responsabilité, et je vous laisse entièrement la responsabilité de vos citations et de vos références. Parce que à titre quand même d'exemple, pardon de vous couper, monsieur, mais à titre d'exemple, puisque vous avez l'air de dire que les dents, ça se fait comme ça, quoi, du jour au lendemain. Les anthropoïdes,
dont on vous a parlé, il y en a qui ont gardé trois prémolaires, et il y en a d'autres qui ont gardé deux prémolaires. Nous, on fait partie du groupe qui a gardé deux prémolaires, c'est-à-dire qui a 32 dents. Vous savez qu'on a gardé ces 32 dents depuis plus de 40 millions d'années. Donc l'évolution dont vous parlez là, qui se fait du jour au lendemain ou sous les 8 jours, c'est, il faut se méfier de généraliser. Hein, et ça s'est tellement mal fait sur le plan évolutif. Ça s'est tellement mal fait. C'est ce qu'on appelle l'évolution en mosaïque. Sur un individu donné, dans une espèce donnée, les diverses parties de l'individu n'évoluent pas à la même vitesse. Ainsi, on a acquis très tôt 32 dents, mais quand on avait 32 dents à ce moment-là, on avait plutôt un museau. On a réduit la face. Enfin, vous avez vu l'allure qu'on a. Vous avez vu la tête qu'on a. N'importe qui nous regarde venant d'une autre planète, ils se disent, ils ont quand même une drôle de tête. Ils n'ont plus de face, ils ont une espèce de truc derrière, une capsule absolument énorme. Ben, on a réduit la face et maintenant on assiste à quoi ? Ben, vous allez le mercredi matin chez des orthodontistes ou dans les cliniques privées et vous voyez des batteries de gamins qui se font arracher les germes des troisièmes molaires qu'on appelle les dents de sagesse. C'est peut-être une manière abusive, d'ailleurs, abus de langage, mais bon. Bon, donc ça évolue pas toujours si vite que ça. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était une précision.
C'est la sélection.
Oui.
La sélection, elle se fait par critères sexuels. À 80%, d'ailleurs, c'est les femelles qui choisissent.
Ça, c'est vrai. Ah oh, j'aime pas ça. Non, 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 non. L'espèce, s'il vous plaît. Ben, je ne sais pas, vous avez affirmé plein de choses. Moi, je crois qu'on observe un certain nombre de caractères et de dimorphismes sexuels quand on regarde l'évolution de la famille humaine, quand on va des premiers préhumains connus et qu'on va vers nous, on s'aperçoit d'une chose, c'est que globalement, le dimorphisme sexuel va diminuant. Ainsi, par exemple, sur les canines, le dimorphisme sexuel sur les canines diminue très largement. Il existe encore, mais il est très faible. Très, très faible. C'est une constatation. Alors maintenant, vous parlez du cerveau. Alors je ne voudrais pas me faire battre ici, mais le cerveau, ce n'est pas forcément un bon exemple. Le cerveau, le volume du cerveau, c'est quelque chose qui, dans l'espèce humaine, est éminemment variable. Anatole France, c'était 1000 cm3. Tourguenieff, Cromwell, c'était 2000 cm3. Du simple au double.
Alors effectivement, si on fait des moyennes de volume de cerveau entre les femelles et les mâles chez les Homo sapiens, on s'aperçoit qu'il y a un écart. Mais on est très loin de l'écart entre Anatole France et Cromwell, mais vraiment très très loin. L'écart entre les deux est très faible. Donc ce qui caractérise, entre autres, notre espèce, c'est que le dimorphisme sexuel va s'atténuant. Alors, bien sûr, mais on peut vérifier ça, et vous allez vérifier ça tout à l'heure en rentrant à la maison. Quand ça m'arrive, moi, alors je ne sais pas, sûrement à vous aussi, vous êtes dans la rue et vous suivez quelqu'un par hasard. Alors, vous avez regardé je ne sais pas quoi avant, puis d'un seul coup, vous suivez quelqu'un et vous vous posez la question. Vous suivez une femelle ou un mâle? Pardon, je parle en biologiste. Non, il ne faut pas que ça vous choque. Hein. Nous sommes des mammifères comme les autres, je vous l'ai dit avant. Hein. Il y a des fois, monsieur, pour ce qui me concerne, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Alors, je me dis quand même, j'accélère le pas. Je passe devant et très élégamment, j'essaie de me retourner pour une raison futile, mais une raison quand même. Et il y a des fois où je n'ai toujours pas de réponse. Ça illustre ce que je vous disais avant. Les caractères sexuels secondaires vont diminuant. Alors, il est vrai que ça change d'une période à une autre. Si on avait vécu à l'époque de Rubens, c'était plus facile. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Alors, au-delà de ce qui est purement culture, culture de l'ethnie, sur le plan anatomique, c'est vrai que le dimorphisme sexuel disparaît. Vous avez tous les intermédiaires. Alors, ce dimorphisme sexuel, c'est au niveau du bassin qu'il est sûrement le plus fort. Attendez, hein, moi, je parle de ce qui se fossilise, hein, c'est-à-dire de la partie osseuse. Bon. Entre un bassin très féminin, très élargi, et un bassin très masculin, très étroit, c'est facile à reconnaître. Sauf que vous avez tous les intermédiaires. Vous avez tous les intermédiaires. Oui, monsieur.
Bon, c'est vrai, n'importe. Moi, je peux. Oui, c'est possible, c'est les deux termes utilisés pour singe anthropoïde ou simiforme. Mais c'est vrai que pour justement les fossiles d'anthropoïdes découverts au Doral-Tala, il y a eu confusion. Dans certains articles, c'était marqué singe hominoïde alors que ce sont des anthropoïdes. Mais après, c'est juste une question de vocabulaire finalement.
Il y a aussi, en plus, monsieur, des problèmes de priorité. Dans la nomenclature zoologique internationale, vous avez une règle d'antériorité. Et donc, vous êtes obligé d'utiliser le terme qui a été créé le premier. Quand il existe deux termes pour le même groupe, vous utilisez celui qui a été créé le premier. C'est la règle d'antériorité. monsieur. Je vous rassure, je m'en pose encore.
C'est une question d'écologie, je pense. C'est qu'ils vivent dans les mêmes milieux et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils voyagent souvent ensemble. C'est une question d'écologie, je pense.
Alors, je vais vous répondre aussi, mais indirectement, dans le même secteur géographique, exactement le même secteur géographique, le détroit de Drake, c'est-à-dire le détroit entre Terre de Feu et Antarctique. Vous avez plutôt que les périodes dont on est en train de parler, vous avez là le passage des marsupiaux. Les marsupiaux arrivent d'Amérique du Sud et ils vont aller en Australie via l'Antarctique. Ils traversent donc le détroit de Drake. À ce moment-là, quand ils font cette traversée, on connaît en Amérique du Sud aussi des placentaires. Pourquoi les placentaires ne passent pas? Il n'y a pas vraiment de réponse. L'écologie, sûrement. Aussi sûrement une partie de hasard. Parce que la traversée du détroit de Drake, c'est une traversée avec des bons successifs. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. C'est pas forcément la bonne réponse, mais on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Sinon, la constatation que les marsupiaux, ils sont allés peupler l'Australie, les placentaires n'y sont pas arrivés.
S'il y a des bons à faire, c'est normal.
Non, il y a des placentaires qui sautent bien aussi. Oui, d'autres questions? Oui, monsieur.
Je reviens sur le passage sud de l'Afrique et là, au principe, on ne voit pas d'île, mais vous dites qu'il y a eu des îles, il y a pu y avoir des îles, il n'est pas impossible. Est-ce que ce sont des îles comme les Cap Galen ou Amsterdam, ou c'est des choses qu'on n'a pas vues et qui sont refaites par les cartes qui sont pas complètes?
Oh non, mais. Ce sont des petites îles, oui. Il y a une foultitude de petites îles. Quand vous êtes là dans les Shetland, il y a plein de...
Il y a...
Oui. De l'autre côté, c'est-à-dire...
Le sud de l'Afrique, et pour rejoindre la...
Oui.
Parce que les Shetland, c'est du côté d'Amérique du Sud.
Oui, mais des Shetland, vous avez tout un chapelet d'îles qui continue jusque sur les côtes africaines. Je vous montrerai, il va falloir que j'y pense, je vous montrerai. Il va falloir que je vous montre ça une fois. J'ai un atlas paléogéographique avec des vues du monde à tous les 10 millions d'années. Vous me ferez penser, je vous montrerai ça la prochaine fois. Vous verrez, il y a plein d'îles. Il y a plein d'îles. Oui, bien sûr. Bah, ce n'est pas une génération spontanée. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, les îles existent, mais la précision qu'ont nos collègues pour les mettre sur les cartes paléogéographiques est ce qu'elle est. On ne peut pas demander l'impossible, quoi. Hein. C'est bien. Et si vous voulez, c'est l'inverse qui se passe à chaque fois sur le plan paléogéographique. Les cartes paléogéographiques pour ce genre de détails sont souvent corrigées après qu'on ait trouvé des mammifères terrestres de part et d'autre. Et à ce moment-là, on dit, bah voilà, il y avait une connexion possible. Alors qu'avant, on disait, il n'y a pas de connexion. Alors, dans les connexions possibles, simplement ce que je suis en train de dire, alors je voudrais que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et les autres ont tort. Je suis en train de regarder, Pauline a énuméré un certain nombre d'hypothèses possibles, c'est tous les possibles, et dans tous les possibles, il y en a qui me semblent moins possibles que d'autres. Et il y en a qui me semblent plus possibles que d'autres. Personnellement, je crois que pour cette migration en question, là, précisément, la voie la moins improbable, la plus probable, la moins impossible, la plus possible, c'est directement d'Afrique en Amérique du Sud, via les Shetland ou l'Antarctique. Mais j'ai peut-être tort. Mais j'insiste sur le fait, et ça vous n'avez peut-être pas assez bien noté, c'est qu'il y a une différence énorme entre vous et nous. Nous, on va retourner en Antarctique chercher des dents. Et donc, si on retourne en Antarctique chercher des dents, nous, on n'a pas le choix. On doit y croire. Si on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. D'accord ? Oui, monsieur.
Réponds.
Ouais. Bah, c'est vrai que les localités, il n'y a pas beaucoup de localités de cette période connue en Afrique, et la plupart elles sont localisées en Afrique du Nord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de rongeurs et strigognathes ou primatanthropoïdes plus au sud. C'est surtout une question de géologie en fait, c'est puisqu'en Afrique du Nord c'est là où on a les plus beaux affleurements et qu'on a pu trouver les plus nombreux fossiles en fait. Franchement, ça, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait de... Puisque s'ils ont migré d'Asie vers l'Afrique, je pense qu'au sein de l'Afrique, c'est... Je pense que c'est juste une question d'échantillonnage plus que de...
Échantillonnage. Vous avez vu sur les cartes d'Afrique qu'on vous montre, vous avez vu les immenses territoires qui n'ont jamais été prospectés quant à cela. Parce que, bien sûr, vous avez eu dans... Si vous prenez le Tchad, c'est l'ancienne Afrique équatoriale française. Vous avez eu des collègues du BRGM qui sont allés là pendant des décennies, mais ils cherchaient quelque chose de bien précis et ils ne cherchaient pas ni des dents d'anthropoïdes fossiles, ni des dents de caviomorphes, non. Alors, il faut regarder ça aussi, il faut tenir compte de ça. Et l'Afrique, c'est un immense continent, immense. Sur le plan géopolitique, c'est, bon nombre de territoires sont difficiles et on ne peut pas y aller facilement ou on ne peut plus y aller. Pour aller au Tchad, j'ai attendu quand même 30 ans. C'est beaucoup. Et puis j'ai fait 15 ans, un peu plus, et puis à nouveau, il va falloir attendre. Et donc, c'est pas facile, mais si vous regardez les points que nous avons sur ce vieux socle africain, on n'a pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup de blanc. Alors, il y a un problème, comme vous le dites, Pauline, il y a un problème d'échantillonnage. Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça que je répète si souvent, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain. Alors, je sais bien, tous vous pensez, vous dites, bah oui, il vieillit, donc il raconte toujours la même chose. Mais non, on a un manque cruel de fossiles, on ne sait pas. Vous imaginez, on dit, enfin... où vous allez dire en sortant, ils sont complètement fous, ils vont chercher des dents, des petites dents de singe en Antarctique. D'ailleurs, il n'y en a pas, ils n'en ont pas trouvé, ils sont allés, ils n'en ont pas trouvé. Parce qu'on m'a déjà dit ça. À ça, j'ai répondu, s'il s'agissait d'aller en Antarctique pendant 8 jours pour trouver des petites dents d'anthropoïdes, ça serait fait déjà depuis longtemps, quoi, hein. Mais vous imaginez qu'on est les premiers à avoir fait ça. On est les premiers à avoir été là-bas avec des yeux qui voulaient regarder pour essayer de trouver des dents de rongeurs et des dents de singes. On est les premiers. Alors, pour trouver, il faut quand même chercher. Ça ne vient pas tout seul. Et je crois que aussi, c'est ça la recherche. Il faut essayer d'ouvrir des voies, de rendre possible ce qui, à l'instant T, est considéré comme impossible. Une dernière question et on arrête. Oui, monsieur.
Quelle séquence ?
Dans la migration de...
Ah non. Non, là, c'est juste rongeurs ristrigognathes et puis les primates anthropoïdes. Aucun autre groupe de mammifères placentaires n'a été retrouvé.
Bien. Allez, encore une question, si vous voulez. Non ? Je ne veux pas que vous partiez en disant ils ont refusé les questions. Hein. Non ? Alors, à la semaine prochaine. Merci.